Oui, alors c'est dû de nouveau à des mécanismes qui sélectionnent et accentuent certains contenus au détriment d'autres. Donc, dans le cas des mouvements anti-vaccins que vous mentionnez, il y a souvent l'idée comme quoi certains vaccins seraient associés à des maladies comme l'autisme, voire même qui provoqueraient l'autisme. Et ça, c'est un fait divers particulier qui n'est, en parenthèse, pas avéré, qui a été accentué par ce groupe pour avancer ses fins idéologiques.
Ça veut dire aussi, dans certains cas, que la rumeur peut devenir un outil de manipulation. Ça a été le cas plusieurs fois, on le sait, dans l'histoire.
Alors, un très bon exemple de ça, c'est le cas du protocole des sages de Sion, qui est un document, qui est un prétendu procès-verbal d'une réunion secrète des dirigeants juifs qui complotaient pour dominer le monde. Et ce document-là, qui était un faux, donc, a été créé de toutes pièces pour nuire à la communauté juive. Ce document-là a été lu par beaucoup d'acteurs importants, par exemple dans la Deuxième Guerre mondiale. Adolf Hitler avait cité ce protocole des sages de Sion dans son ouvrage Mein Kampf et l'utilisait pour justifier l'agression contre les juifs.
Alors, on a beaucoup parlé de la rumeur, de ce qu'elle peut être véhiculée par les médias. Aujourd'hui, tout va de plus en plus vite, notamment par l'Internet et également par Facebook. Est-ce que c'est un véhicule dangereux pour les rumeurs et les croyances populaires?
Je dirais que oui et non. Alors, les nouvelles technologies permettent effectivement de communiquer de manière plus efficace, de mettre plus de gens en communication. Donc, ça facilite d'un côté la diffusion de rumeurs, et on connaît bien les rumeurs qui nous arrivent par notre boîte de courrier électronique. Mais en même temps, les nouvelles technologies facilitent aussi la diffusion d'informations qui permettent de démentir les rumeurs. Par exemple, il y a maintenant beaucoup de sites comme Hoaxbusters, par exemple, qui cataloguent en fait les rumeurs et qui les démentissent. Et donc ça, c'est aussi une ressource électronique qui est disponible pour rétablir en fait les faits.
Vous avez beaucoup étudié les rumeurs justement à travers le monde. Vous continuez à vous intéresser à ce sujet, à voir comment les rumeurs et les croyances populaires évoluent à travers le monde, parce qu'elles ne vont pas évoluer de la même manière en Chine, en Europe, qu'en Amérique latine.
Alors, ce qui me fascine, c'est qu'il y a bien entendu des différences culturelles et les thématiques qui vont être sujet à des rumeurs varie bien sûr en fonction des différentes cultures, mais il y a un certain nombre de préoccupations de base, d'anxiété ou de peur de base, qui sont communes à toutes les cultures et qu'on retrouve dans différentes versions de rumeurs ou de croyances populaires.
C'est comme les légendes finalement, comme les histoires qui se racontent.
Voilà, alors les anthropologues ont beaucoup étudié les légendes traditionnelles et on peut montrer qu'il y a un certain nombre de thématiques fondamentales qui apparaissent de manière universelle dans beaucoup de légendes traditionnelles.
Ça veut dire que dans certains cas, c'est véhiculé de la même manière?
Alors, je ne sais pas si c'est véhiculé de la même manière. Les thématiques fondamentales sont les mêmes, mais souvent, on va adapter un certain nombre de contenus superficiels. Des détails du récit vont être adaptés au contexte local, à l'époque. Et c'est ce qui permet de renouveler périodiquement ces rumeurs et de les rendre plus crédibles pour des gens qui vont les écouter à une nouvelle époque historique ou dans une nouvelle culture.